Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Mario Bartoli, Pascal Duprat, Simon Dutin, Julien Beneteau. Tiens, dans un instant, Julien va mettre le brassard de capitaine pour la première fois. La Coupe Davis a continué de creuser sa tombe cette semaine, va nous dire Julien. Il est hors de lui.
Ça tombe non, mais oui, mais ça perd de l'intérêt de plus en plus, malheureusement.
Ouais, ça va vous faire débattre tout à l'heure. Je rappelle que la France s'est qualifiée pour la phase finale. Et après sa victoire face à la Croatie. En fin d'émission, venez jouer avec les GG dans les jeux du sport ce week-end. Participez et remportez votre PC portable 16 pouces de la marque française Altic. Appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. D'abord, tiens, le direct, c'est la première fête du sport partout en France. On l'a dit tout à l'heure avec la ministre des Sports démissionnaire Marie Barsac, qui était notre invitée. 5000 événements sont organisés partout sur le territoire. À Paris, la rue de Rivoli est transformée en boulevard du sport, nous avait expliqué la ministre. Léna Marjac est sur place. Salut Léna.
Salut Georges, salut tout le monde.
Salut Léna.
Bon, ça veut
salut
dire quoi et c'est quoi le programme de la journée?
Bon, boulevard du sport, c'est simple en fait. Sur plus de 2,5 km, la rue de Rivoli est totalement destinée à cette fête du sport. On va y retrouver notamment des stands, des initiations, des rencontres aussi avec des sportifs olympiques et paralympiques. Et surtout, tout au long de la journée, on a un programme vraiment bien rempli avec des défis assez improbables. Je vous donne déjà un premier exemple. À 15h30, l'ancien biathlète Martin Fourcade affrontera des grands maîtres des échecs. Puis après, on aura un petit peu d'athlétisme avec 100 mètres, là aussi des légendes vont se défier. Manon Brunet, l'escrimeuse, va défier Sarah Léonie Sizik, la judokate, ou encore l'ancienne nageuse Laure Manaudou. Et ces filles vont être coachées par un coach de choix et de renom. Marie-Josée Pérec sera là pour ce 100 mètres. Et puis la journée, elle va se terminer par un défi, alors là, complètement inédit. C'est le défi 100 mètres, mais cette fois à la nage, entre Maxime Grousset, récent champion du monde, va nager face à Tony Estanguet, qui lui sera sur son canoë. Et ça se passera au bassin de Grenelle. Alors attention, parce que ce sera dans la Seine, mais il faut voir si les tests réalisés ces dernières heures seront posés et seront. Oui, voilà, il faut qu'ils soient favorables, sinon il y a normalement un plan B. Donc voilà, un beau programme, des défis inédits et tout ça pour réunir l'ensemble des Français.
Bon, c'est bon, merci Léna, on te suit toute la journée évidemment. Bah, Tony Estanguet, il est sur son canoë, il peut y aller.
Comment tu peux battre un mec en canoë en nageant, toi? J'ai du mal à.
Le départ, l'inertie au départ, je pense que Estanguet, au départ, il est un peu plus lent.
Après, Tony Estanguet, il est plus tout jeune, avec tout le respect qu'on a.
Il le drape à Tony, ça c'est fait.
Par contre, il doit y avoir un budget conséquent pour les tests de la flotte. Là.
Ah oui, bon, moins que avant les Jeux Olympiques, je pense. Oui, là, je pense que c'est juste aux doigts mouillés. Ah! Pas ouf. Ouais. Non, ça marche pas. Mieux vaut pas y aller, les gars. Allez. Tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG, à travers vos expériences, puisqu'il faut bien célébrer le sport aujourd'hui en cette journée de fête nationale, montrer son importance aux plus jeunes qui nous écoutent, comme Titouan qui nous envoie un message tout à l'heure, et aux politiques qui ne voient peut-être qu'une ligne de budget à supprimer pour le sport. Je voudrais qu'on comprenne avec vous pourquoi le sport est si important en vous posant cette question. Comment le sport vous a-t-il transformé avec le début de votre carrière, notamment l'importance qu'il a eu. Je vous attends là-dessus sur vos anecdotes, votre vécu. Pascal.
Alors moi, ça, on remonte le temps là. Donc c'est dans les années 76. Donc j'ai 14 ans, vous vous rendez compte? Et j'ai la chance d'avoir tous les clubs professionnels qui veulent me recruter. Et je décide, plutôt avec l'aval de mes parents, je décide d'aller au centre de formation du FC Sochaux. À cette époque, c'est pas l'époque d'aujourd'hui, c'est que vous rentriez deux fois dans l'année chez vous. Donc le sport, dans l'année. Le sport m'a tout donné, parce que tout petit, 6-7 ans, quand j'ai commencé le football, eh bien j'étais bien portant, pour ne pas dire gros, et j'étais timide. Le sport m'a aidé à prendre conscience que mon corps était important et que si je voulais faire du sport, du ski, du foot, du hand, tous les sports qu'on fait à l'école, surtout quand on est en Haute-Savoie, tous les sports de montagne, eh bien il faut faire attention à ton corps et en prendre soin. Ça m'a appris la résilience. Et puis le collectif, parce que c'est là où je suis allé le plus fréquemment vers le sport, le football que j'ai pratiqué et que j'aime tant. Le collectif m'a permis de rompre avec cette timidité et de me faire la place parmi mes copains. Ça a été prépondérant pour moi. J'en ai des trémolos dans la gorge,
oui,
tellement ça me replonge dans mes souvenirs d'enfance. On croirait pas comme ça, mais très franchement, j'étais très très timide, d'une timidité maladive. Merci au sport de m'avoir donné la chance de m'exprimer, la chance de faire ma place, puis la chance ensuite de pouvoir m'exprimer dans tout le monde comme je le fais aujourd'hui. Et comme je l'ai fait souvent devant un auditoire qu'on appelait un vestiaire de football. Voilà, c'est la construction d'une enfance pour aller vers une adolescence, une souffrance aussi, parce que quand vous rentrez deux fois chez vous à 14 ans, croyez-moi, ça met souvent les idées en place et ça vous aide à être résilient et compétitif.
Le sport t'a transformé.
Transformé complet.
Marion.
Alors c'est très intéressant ce que Pascal évoque et c'est souvent d'ailleurs, on le retrouve même chez de grands acteurs ou de grands comédiens qui avaient au départ cette timidité maladive et que finalement les planches leur ont permis d'arriver à vaincre ça. Et pour moi c'était un petit peu la même chose, c'était pas sur la timidité, c'était plus sur la confiance en moi. Où j'ai toujours eu un énorme problème de confiance en moi et donc j'ai depuis toute petite mis en place certains capacité à pouvoir, grâce au travail, passer au-dessus de du manque de confiance en moi et en tout cas des problématiques liées à ce manque de confiance en soi, surtout lorsqu'on doit jouer sur des grandes champs, devant des grandes championnes et pour moi, en fait, c'est devenu un petit peu un espèce de leitmotiv, c'est-à-dire que j'ai construit depuis toute petite et la première finale d'un petit tournoi que j'avais joué quand j'avais 6 ans et demi, qui paraît ridicule et anodin, mais qui a finalement m'ont permis de développer ce que j'ai pu développer plus tard et qui ont été totalement les fondations de ce que j'ai mis en place pour après jouer de plus grands matchs à bien plus haut niveau. Mais en fait, quand j'étais petite, en n'ayant pas confiance en moi, je développais des moments de stress extrêmement importants, avec donc des maux de ventre, envie de vomir, etc. Et je n'arrivais pas à aller sur un terrain de tennis lorsque c'était une finale. Il n'y avait pas de problème jusqu'à la finale. Et puis, une fois que la finale arrivait, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à passer outre ça. Et mon papa m'a appris à contrôler ça par des moyens explicatif pour essayer de me rassurer, pour aussi me montrer que la vie finalement était une succession de possibilités si on était capable de les voir et qu'en revanche ça serait aussi une succession d'échecs si on était systématiquement mis de côté ou sur la ligne de côté. Et que finalement en essayant de me lancer quel que soit le résultat, même s'il était négatif, rien que le fait de me donner la possibilité d'entrevoir, d'aller faire quelque chose, c'était beaucoup mieux que de l'éviter. Et finalement, ça a été un acte extrêmement fondateur puisque les autres activités que j'ai pu avoir après ma carrière tennistique m'ont permis de me démontrer aussi qu'avec le travail, avec cette capacité à voir un champ de possibilités extrêmement important plutôt que de voir que des portes qui se fermaient devant soi, ça m'a permis d'aujourd'hui avoir une activité au-delà de ma carrière tennistique qui a été importante.
Le sport vous a transformé. On vous écoute, Pascal, Marion, Julien, Benetto. Tu penses aussi que le sport, dans l'histoire personnelle, t'as apporté tout ça ?
Transformé, je sais pas, m'a construit forcément. Parce que moi, je suis parti de la maison à 11 ans et demi, 12 ans. Alors, je rentrais pas deux fois par an, mais je rentrais au début une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Donc, quand on a 12 ans et qu'on est tout seul dans un crêpe à Poitiers, au milieu de la forêt, dans une chambre individuelle, bah forcément, ça forge un caractère. Ça... Mais pour moi, le sport... quand je me souviens, c'est quand j'étais enfant, c'est des souvenirs et c'est des émotions. C'est-à-dire que quand je regardais le sport, ça me procurait des émotions et c'est ce qui m'a donné envie de vivre ces émotions. Je me souviens de l'OM à Bari, la finale contre l'Étoile Rouge. J'étais tout seul avec ma maman dans le salon, c'est ma mère qui me raconte ça et tout d'un coup, quand je prends conscience que la séance de tir au but est terminée, je lui demande, donc là c'est terminé. Et elle me fait, oui, mon chéri, là, c'est terminé. Et je prends conscience que l'OM perd. C'est des souvenirs qui sont en moi. Alors, évidemment, après, j'ai 93, la victoire de l'OM. J'ai la Coupe Davis 91, la France qui bat les États-Unis en finale à Lyon. J'y étais, mon papa m'a emmené dans la salle. Ça m'a donné envie Et après, l'amour que j'ai eu pour l'équipe de France et pour la Coupe Davis, elle est née là. Et derrière, j'ai eu envie de pouvoir vivre ça, de pouvoir vivre ces émotions. Donc, c'est comme ça que je me suis construit avec le sport, que ce soit en tant qu'acteur, en essayant de devenir un joueur de tennis professionnel, mais aussi en tant que spectateur, en tant qu'amoureux du sport. Aujourd'hui, il n'y a rien d'autre dans la vie, enfin, à part des grands événements familiaux, etc. Mais quand je regarde un grand événement de sport qui me donne une émotion particulière, il n'y a que le sport qui me donne ça. Je suis capable d'avoir un petit peu les larmes aux yeux quand McIlroy s'écroule sur le green du 18 quand il gagne le Masters, parce que on voit à quel point tout ce que ça représente pour lui de compléter ce grand chelem et de ressentir un petit peu ça, voilà. Et puis aussi, ça m'a permis,
ça te transforme parce que tu te projettes beaucoup sur le sportif, justement.
Bien sûr. Ouais. Et puis, ça fait le compétiteur que j'ai été, que je suis encore quand je pratique d'autres sports. Et aussi, ça me permet de relativiser certaines choses de la vie. Parce que en tant que sportif, on a été tout le temps obligé de gérer des grosses émotions positives, des émotions négatives, des émotions positives, des émotions négatives, et qu'on se construit avec ça aussi, et qui permet de relativiser certaines choses.
C'est très intéressant. Moi, je bois vos paroles. Pardon, Simon, je voulais peut-être intervenir, mais en fait, tu parlais d'émotions. Alors moi, les émotions, ce qui me ramène à aimer le football et le sport par-dessus tout, c'est que j'avais la chance d'avoir un père qui a joué au foot, et c'était mon idole, mon père. Il a fait un quart de finale de Ligue des Champions avec le Servette de Genève, il avait 20 ans. Voilà, et mon père avait 19 ans de plus que moi seulement. Donc j'ai eu la chance de voir jouer mon papa, et ça m'a donné l'envie de le copier. Au départ, et puis pour revenir sur ce que disait Marion, et que je comprends tout à fait, c'est la discipline que le sport de haut niveau vous donne, mais vous donne à vie. Aujourd'hui, j'ai 63 ans, et je fais encore mon activité tous les jours, je fais du gainage. J'ai eu quelquefois dans ma période d'entraîneur où j'avais un peu de surpoids, et très vite je me suis dit attention Pascal, là t'es pas représentatif, il faut que tu perdes du poids. Donc je me suis toujours astreint, et je m'astreins encore aujourd'hui, une vraie discipline tout le temps. Le sport vous donne ça, et la remise en question, c'est bien souvent, quoi qu'on en dise, les grands sportifs, les sportifs ont beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que d'une semaine à l'autre, il faut te remettre en question tout le temps. Rares sont les domaines d'activité où tu te remets en question presque journellement.
Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je disais que ça a aidé à se construire pour les autres choses de la vie, parce qu'il y a cette remise en question qui est permanente. Et puis aussi, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé depuis une vingtaine, une trentaine d'années. C'est les documentaires en inside, que moi, quand j'étais petit, on n'avait pas. Là, ça a commencé avec Les yeux dans les bleus. Quand tu aimes le sport et que tu vois comment Aimé Jacquet prépare son équipe quand ils sont au stage au Maroc, le discours à la mi-temps de la Croatie, le discours d'avant-match, avant la finale, quand il prédit ce qui peut se passer sur les coups de pied arrêtés, quand tu aimes le sport et que tu entends la causerie de Pascal, ce fameux match contre Angers, c'est exceptionnel. Moi j'en parle, j'ai des frissons. Quand tu regardes la Ryder Cup, ce qui se passe en amont, quand ils vont gagner à Medina en 2012, et les enfants aujourd'hui ont accès à beaucoup de documentaires, que ce soit les intérieurs sports, les plateformes diverses et variées qui font. Et ça, pour eux, c'est quelque chose qui est... qui est très riche pour moi, s'ils le prennent de la bonne manière, ça peut les nourrir et ça peut leur donner encore plus envie de vivre ce genre d'émotion.
J'espère que les plus jeunes nous écoutent. Comment le sport vous a transformé, Moi, Marion, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, je voulais juste rebondir sur Julien, sur ce qu'a évoqué Julien, parce qu'effectivement, moi aussi, pour la Coupe Davis 91, j'étais présente à Gerland, en habitant la Haute-Loire, on n'était pas très loin de Lyon, enfin, c'était à une centaine de kilomètres, donc j'avais supplié mon papa de m'amener pour assister à ce moment historique de la France, et même si je supportais Pete Sampras envers et contre tout, bien évidemment, pour ce week-end-là, j'étais pour la France, et ça m'a provoqué des émotions qui m'ont donné envie de faire du tennis professionnel. Mais c'est intéressant que tu évoques Rory McIlroy, parce que je l'ai croisé à l'US Open et j'en ai discuté avec lui, justement, parce que je sais à quel point il a dû travailler pour arriver à remporter ce Masters. Et lorsque finalement il rate la première fois, avant ensuite de partir sur ce trou supplémentaire où là il doit gagner, je lui ai demandé comment il avait ressenti le fait que pour lui, à son niveau, il rate un coup qui est inratable quasiment. Et c'est finalement dans ces moments-là et dans ces des moments de difficulté que tu t'aperçois à quel point la psychologie du sportif qui a été construit par la défaite plus que par la victoire ont des capacités de rebond qui sont totalement exceptionnelles. Et c'est là où je rejoins fondamentalement Pascal, c'est qu'effectivement bien évidemment, on se souvient des victoires, mais finalement, on apprend beaucoup plus sur soi-même dans les défaites et dans les défaites qui font le plus mal. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à se construire une personnalité qui nous permette ensuite d'aller chercher de grandes victoires.
Ouais, parce qu'en fait, le sujet, on a dit comment le sport vous a-t-il transformé. La bonne question était peut-être plutôt comment le sport vous a formé, vous a construit comme personne au-delà de sportif. Simon.
Moi, ce que je trouve passionnant en écoutant les copains, c'est qu'on parle de la carrière de Pascal, de celle de Marion, de Julien, des trajectoires différentes et a priori des destins individuels. Voilà, ta carrière, elle est à toi, elle est pour toi et ton rapport au sport, il est individuel. Mais ce qui revient, le dénominateur commun des témoignages, c'est le rapport à la famille, finalement, le ciment que ça met entre les membres d'un groupe, que ce soit la famille ou l'entourage très proche. Et c'est ça qui me permet, moi, de m'identifier à ce qu'ils disent, parce que on connaît l'importance. Pascal a parlé de son papa, on connaît l'importance du papa de Marion dans son parcours, dans sa réussite. Julien a parlé de la famille. Et moi, à mon niveau, les souvenirs que j'ai de sport, c'est mon père qui se les gèle au bord du cours alors que je suis en train de me faire cirer par un mec plus mauvais que moi, et puis qui, dans la voiture, je sens qu'il est déçu. Bon voilà, il s'est cogné 4 heures, il n'est pas allé déjeuner avec ses copains, mais voilà, et il est là, il me console, il m'encourage, et il sera encore là la semaine prochaine. Et en effet, que tu continues ou pas, bon, ce qui n'a évidemment pas été mon cas, il y a ce rapport, ces souvenirs que le sport te permet de fixer, parce que c'est un ciment justement autour d'une passion. Et au-delà de ça, ça te permet, le sport, il te permet de connaître la différence, d'appréhender la différence, d'appréhender l'autre, et en même temps, il aplanit ces différences. Moi, je me souviens des copains que j'avais au club de foot. Voilà, je me souviens de la maman de Ali. Ali, c'était notre attaquant vedette. Il mettait 7 pions par match. Tu sais, à l'époque où c'était les entonnoirs. Tu sais, je sais pas comment on appelle ça là. Les comme les débouches lavabo là. Tu sais, les buts quoi.
Ça s'appelle des constrifoot.
On gagnait tous parce que Ali, notre attaquant, il mettait 5 ou 10 buts par match. Et sa maman, elle venait au bord du terrain et elle préparait le goûter pour tout le monde. Et elle nous ramenait à la maison et elle s'occupait de nous comme si on était ses enfants. Et c'est des souvenirs que je garderai toute ma vie. Et je comprends que, enfin, je suis très ému par le témoignage de Pascal, Marion et Julien, parce que ça me permet, moi qui n'ai jamais connu le haut niveau, de m'identifier.
Julien, tu voulais rajouter un truc?
Non, c'est des souvenirs. Simon parle de son papa qui, moi aussi, mon papa. Alors, il m'a amené en 91 à la Coupe Davis, mais c'est je me souviens, une année, j'étais en rassemblement à Roland-Garros, 93 ou 94. Et c'est une autre époque, parce qu'il était samedi midi, à 15h, on s'aperçoit que la France joue l'Angleterre au tournoi des 5 nations. Et on a réussi à avoir des places avec un autre copain, on est rentrés tous les trois. C'est-à-dire, on partage des moments dans un stade, au-delà, autre que le sport que l'on pratique, que l'on vit. C'est des moments, c'est des Madeleine de Proust, c'est des étapes du Tour de France qu'on regarde ensemble, c'est des matchs du tournoi des 5 nations l'hiver qu'on regarde ensemble, c'est des matchs de foot qu'on regarde, à une époque où il y avait moins de sport à la télé qu'aujourd'hui. Donc c'était des moments qui où on est, où on construit des émotions, et le rôle forcément des parents, quel qu'il soit, il est déterminant.
Il est majeur.
Ouais, maintenant, vous voyez, je suis père comme vous, et moi j'ai un fils qui a 40 ans, et le seul regret, ma petite carrière de footballeur professionnel, puis ma petite carrière d'entraîneur de football, mon seul regret, c'est que malheureusement, j'ai eu mon fils aîné comme joueur tout au long de sa jeune carrière. Il était bon, mais il n'était pas suffisamment meilleur que les autres pour que je lui fasse un peu de place. Mmh. Et je le remercie par le biais de l'antenne, parce qu'au bout du compte, il m'en a pas voulu. Il avait le niveau pour y arriver, il a joué jusqu'en national, mais j'ai l'impression que c'est son père coach qui l'a empêché. Mmh.
comment le sport nous a construit finalement ces sujets qu'on a un peu décidé pendant ce vestiaire. On a un peu changé l'intitulé et je vous ai rarement vu tout ça aussi ému, franchement, en parlant, en vous écoutant. Et en fait, je suis sûr que vous, les auditeurs qui nous écoutez, vous pensez tous à la même chose. Moi, je pourrais parler de mon père Venusier avec sa petite télé. On regardait les étapes du Tour de France sur un petit écran.
C'est une belle
ma mère
rubrique.
Qui est repassée l'après-midi. On regardait les matchs de Roland Garros.
Ouais.
Ça nous a tous formés sur ce que l'on est et ça nous a tous unis. Donc oui, le sport, c'est un peu plus qu'une ligne de budget, c'est un peu plus qu'un sport, effectivement. Donc finalement, c'est le plus beau témoignage, je pense, qu'on peut donner pendant cette journée de fête nationale du sport. Et alors qu'on a parlé de beaucoup de choses, peut-être un peu plus arides tout à l'heure, d'argent et tout ça, le sport, c'est tout ça et c'est ce qu'on veut véhiculer dans les grandes gueules du sport. Merci les amis, c'est pas terminé, puisque dans quelques instants, on va revenir à quelque chose qui va vous diviser là. Après, là, vous étiez unis, là, vous étiez une équipe, une famille. Captain Bento va prendre le brassard, il va parler de la Coupe Davis. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC.
Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble.
Les grandes gueules du sport.
Ce qu'on va voir, c'est des gens qui vous aiment.
9h midi.
On a besoin que de nous pour se maintenir. Ouvrez les yeux. Ouvrez les oreilles.
Georges Quirino.
Et c'est juste beau ce qu'on va vivre tout à l'heure dans les jeux du sport avec vous. Je l'imagine, vous allez vous écharper. Mario Bartoli, Julien Benneteau, Pascal Duprat, Simon Dutin et vous au 32-16. Les jeux c'est dans quelques instants, mais d'abord, Julien Benneteau remet le brassard de capitaine.
RMC, Captain Bennett met le brassard.
Aïe, ils sont tous impressionnés quand ils ont leur jingle. Julien, tu voulais nous parler aujourd'hui de la Coupe Davis. La France s'est qualifiée pour la première fois, je rappelle, depuis 2019 pour la phase finale. En battant la Croatie chez elle hier, Final 8 qui aura lieu à Bologne à partir du 18 novembre. Corentin Moutet a apporté le point décisif en battant Marine Cilic. Mais ce qui te chagrine, ce n'est pas le résultat des Bleus. Je pense qu'on est tous contents là-dessus. C'est ce que tu as vu ou peut-être pas vu cette semaine en Coupe Davis. On t'écoute, capitaine.
Oui, déjà tu l'as rappelé, souligner la performance exceptionnelle de Corentin Moutet, c'était sa première sélection, 2 points rapportés pour la France, qualification en Final 8, bravo et c'est génial. Non, cette Coupe Davis, en fait, j'ai peur que son prestige, son histoire et sa valeur ne soient, comment dire, diluées et rabaissées au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, ce week-end, il y avait un Croatie-France. Il y avait un USA République tchèque, entre autres, et il y a un Espagne-Danemark. Ce sont des rencontres à l'époque de la Grande Coupe Davis qui auraient été jouées dans des salles de 8 à 10 000 personnes pour Croatie-France, pleine à craquer, avec une ambiance, un engouement exceptionnel. Là, Croatie-France, ça s'est joué dans une petite salle au fin fond de la Croatie, pas pleine. J'ai regardé un petit peu Espagne-Danemark, ça se joue dans un club de tennis à Marbella. Alors qu'à l'époque, nous, quand on a joué l'Espagne à cette époque de l'année, en quart de finale ou en demi-finale, on jouait dans des arènes à Alicante, à Cordoue, de 10 000, de 12 000 places, des arènes, la fameuse Plaza de Toros, où les terres battues étaient montées, c'était une ambiance exceptionnelle. Et USA, République tchèque, les USA qui sont un pays de tennis avec une histoire, avec la Coupe Davis, c'est le pays qui détient le nombre de records de victoires en Coupe Davis, avec l'Australie, etc. Ça se joue dans un petit club à Delray Beach, où c'est même pas plein, ils ont fermé les tribunes du haut. Et en fait, il faut vraiment que l'ITF fasse quelque chose par rapport à cette compétition.
La Fédération Internationale de Tennis.
Il faut qu'ils trouvent vraiment une formule qui redonne le prestige que cette compétition doit avoir. On a au golf la Ryder Cup, qui est tous les 2 ans, et qui, aux yeux des plus grands champions, est un objectif majeur. C'est-à-dire que demander aux Scheffler, McIlroy et compagnie qui vont se battre dans 15 jours, c'est un objectif exceptionnel. Moi, ce week-end, ce qui me dérange, par exemple, c'est que l'Espagne, Alcaraz, il joue pas. Qu'en Allemagne, Zverev, il joue pas. Et que dans 2 ou 3 jours, ils vont être présents pour la Lever Cup, qui est une exhibition. Donc,
il y a vraiment... Le monde contre l'Europe, hein, je rappelle,
voilà.
La Lever Cup.
Il y a vraiment tout un modèle à repenser pour que cette Coupe Davis... représente ce qu'elle doit représenter. Moi, j'ai grandi avec, on en a parlé dans la séquence d'avant, avec ces week-ends épiques, et qu'on me parle pas de calendrier. Le problème du calendrier
n'est pas audible pour les, par rapport aux grands joueurs. Parce qu'ils vont jouer la Laver Cup, parce qu'ils vont aller jouer une exhibition en Arabie Saoudite entre Shanghai et Bercy. Parce que quand ils veulent trouver le temps, ils viennent jouer. Donc, c'est à l'ITF de trouver une formule qui a fonctionné, les matchs à domicile ou à l'extérieur. Et si on doit redonner du prestige, peut-être la rarifier un petit peu. Tous les deux ans. Alors oui, l'ITF, c'est la seule source de revenus. Et donc, ils ont besoin de gagner de l'argent chaque année, etc. Ça, c'est pas mon problème. Tout ce que je veux, c'est que, tout ce que je souhaite vraiment du fond de mon corps, c'est que cette Coupe Davis retrouve ce lustre qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est qu'il y a toute une génération de joueurs qui sont en train d'être élevés, éduqués et grandir avec une vision de la Coupe Davis complètement dévalorisée. Donc, s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui est fait rapidement, les générations qui arrivent, pour eux, la Coupe Davis, ça ne vaudra plus rien dire.
Capitaine Bennett, la plus jeune génération, peut-être, la Coupe Davis, ça ne vaudra plus rien dire. Marion, tu as écouté soigneusement le Capi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu es d'accord ou pas, d'ailleurs ?
J'ai écouté soigneusement, mais aujourd'hui, tu ne peux pas en vouloir ni Alcaraz ni Zverev de ne pas jouer leur match. Aujourd'hui, pour moi, il y a beaucoup trop de rencontres de Coupe Davis. Si tu n'es pas un suiveur acharné du tennis, tu ne sais même pas là quel est le niveau de compétition dans laquelle la France vient de jouer contre la Croatie, dans quel cadre, pourquoi ils jouent maintenant, ça devient impossible de suivre. Leur Final 8 à Bologne ou dans une autre ville, d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Auparavant, la Coupe Davis avait une valeur qui était certaine. Et là où je rejoins totalement Julien, c'est que effectivement, nous, on a grandi avec des rencontres de Coupe Davis historiques. On parle de 91, il y a eu celle à Malmö où la 96, France va battre la Suède qui était totalement mythique, où on était tous accrochés à France 3 en train de regarder à 21h le soir le match décisif entre Arnaud Boc et Lucas Kulti, parce qu'il y avait cette rareté des matchs qui étaient à la fois à domicile et à la fois à l'extérieur.
Rareté,
qui
rendait... Tu sais, à l'époque, il y avait quand même 4 rencontres par an. Donc là, tu dis aujourd'hui, oui, il y a trop de rencontres de Coupe Davis. Il y en a que 3.
Aujourd'hui, tu es obligé de faire quart demi-finale. Tu prends que les 8 meilleures nations sur quart demi-finale, à l'extérieur ou à la maison, en fonction du tirage au sort. Et là où je te rejoins totalement, il faut le faire une fois tous les deux ans. C'est-à-dire que auparavant, lorsque la France gagnait, tu avais l'impression que tu venais de gagner fin novembre, tu devais rejouer ton premier match quasiment au mois de février. L'enchaînement était beaucoup trop rapide. Tu n'avais même pas le temps de savourer le titre que tu venais d'acquérir de haute lutte après des matchs acharnés qui sont très coûteux sur le plan énergétique, parce que il y a joué en individuel pour toi dans un grand chelem ou dans un tournoi, et il y a joué pour ton pays qui représente un investissement mental qui n'a rien à voir. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'aller sur un terrain quand t'as écrit France dans le dos et de voir tes copains ou tes copines sur le banc d'à côté d'essayer de gagner le match que quand tu joues uniquement que pour toi. Donc, pour moi, de le rarifier, c'est totalement nécessaire si tu veux sauver cette compétition. Et malheureusement, effectivement, aujourd'hui, les joueurs, oui, totalement, le réduire, parce que du coup, le titre, comme il va venir beaucoup plus rarement, il aura beaucoup plus de valeur. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement, les joueurs ou les joueuses, et d'ailleurs, je mets la Billie Jean King dans le même sac, hein, parce que pour moi, ça n'a plus aucun sens
que, on se dirige vers une catastrophe industrielle. C'est-à-dire que la Billie Jean King Cup, la phase finale est la semaine prochaine. Personne ne le sait, c'est en Chine. Ouais. La Chine a promis monts et merveilles au niveau du prize money. Et les informations que j'ai, c'est qu'ils sont loin de pouvoir payer ce qu'ils ont promis à l'ITF. Donc attention, là, on peut se diriger vers un
crash industriel.
Ça avait été déjà un crash industriel lorsqu'il avait organisé le Masters de fin d'année à Shenzhen ou lorsque la Beijing avait été organisée ailleurs. Mais là, le problème, et là où je te rejoins totalement, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai suivi la France effectivement contre la Croatie. Ça s'est joué à Osijek.
T'as vu ça?
Allez, franchement, s'il y avait 800 personnes, je suis large.
Ouais, mais tu vois, mais c'est incroyable.
Ça me fait la peine. Ça me fait vraiment la peine.
Tu sais qu'à la même époque de l'année, il y a 10 ans, en 2016, 9 ans, on a joué la Croatie, enfin moi j'y étais pas, à Zadar, mais il y avait 8000 personnes dans la salle.
Ah, mais on parlait de l'ambiance hostile et tout, je me rappelle à l'époque. Tiens, on fait tourner,
par exemple, quand tu jouais, quand la France avait joué la Serbie de Djokovic,
oui,
j'étais plein craqué.
Vous êtes quand même assez d'accord. Simon, est-ce que tu es d'accord?
là où je rejoins totalement Julien, c'est qu'il faut changer le format. Il y a une réforme profonde
bien sûr
à avoir, et mais il faut arrêter de faire des mesurettes.
Les GG veulent une Coupe Davis tous les deux ans. Moi c'est ce que j'ai retenu. Simon, capitaine Beneteau, d'accord.
Rapidement, moi je suis évidemment en phase avec ce qui vient d'être dit par Julien, par Marion. La rareté crée l'événement, donc et la valeur. Donc Marion a rappelé les souvenirs, évidemment. 91, Forger Lecomte qui bat de Sampras à Agassi sur un week-end, c'est absolument légendaire. C'est un des plus grands moments de sport, moi, que j'ai vécu à la télé. Je m'en souviendrai toute ma vie. Marion a rappelé, moi, c'était j'écoutais France Info. J'avais pas le droit de regarder la télé, mais j'avais cours le lendemain. Mais en effet,
RMC, j'espère.
Je sais pas si c'était en direct sur RMC.
Si, Eric Salio était déjà là.
En 96.
Ah
non. C'est pour ça qu'on a gagné. Il était pas là.
Du soleil.
Il était déjà en claquette.
Et j'ai même envie de dire que ce qui prouve que à l'époque c'était quand même des grands moments. Moi je me souviens, j'ai failli pleurer quand on se fait battre à Fréjus par l'Inde, Krishnan Paes, en 93
sur terre battue.
J'étais fou, j'étais dans une colère noire, et en effet je pense que l'ITF a eu les yeux plus gros que le ventre, a voulu a bousiller ce qui était une épreuve mythique du sport mondial.
Il faut de la rareté, t'es d'accord?
Évidemment,
ouais, tous les
ans. Redonner envie justement même aux grands champions d'aller
Captain Beneteau a été bon, hein, Pascal, il a été bon.
Ouais, bravo.
Merci.
Julien, bravo. Non,
mais par contre, tu peux pas en vouloir d'Alcaraz de pas jouer.
Attends, non, mais juste Pascal, t'as entendu.
En fait, j'espère que Marion t'es pas en train d'aller sur le volet du pognon, quoi, je veux dire. Alors oui, c'est vrai qu'ils vont jouer la Lever Cup pour empocher un peu de pognon, mais bon, j'ai pas l'impression qu'ils en manquent. Et une fois dans l'année, que de soutenir son équipe en jouant la Coupe Davis, c'est juste le noble. Et on parlait de sport, est-ce que tout ce que ça nous a apporté, de jouer pour sa nation, c'est quelque chose de vertueux quand même.
Donc, non, mais là, c'est pas une fois dans l'année, si tu veux. Non, mais Pascal, c'est pas une fois dans l'année. Le gars, il s'est enfilé, trois finales de Grand Chelem, dont deux titres, sur trois surfaces différentes, sur trois mois et demi. Donc, il devait rechanger surface pour repasser sur terre, pour ensuite enchaîner toute la tournée. Alors, Lever Cup ou pas, de toute façon, tout la tournée part sur dur. Sur dur extérieur, puis sur dur intérieur. C'est même pas le problème d'Alcaraz, parce que c'est pas Alcaraz qui va lui tout seul sauver la Coupe Davis. Le problème, c'est qu'il faut sauver le format et qu'il faut en sauver le prestige. C'est ça le problème de fond.
Captain Beneteau a été très bon, là, franchement, pour ta première brassière. Je pense que t'as convaincu tout le monde, Julien, et on te félicite.
Il a été capitaine avant.
Merci, Marion. Il me reste encore des trucs de capitaine, ça sent
les prep talk avant les matchs, ça se sent.
Mais prends la présidence de l'ITF, vas-y, franchement.
Non, pas.
Non, alors je voulais une punchline. Oui, je suis candidat. Moi, président de l'ITF.
Mais Julien, vas-y, tu seras en présidentiel sur tous les matchs.
Ravi.
Ce sera génial.
Dans quelques instants, on va jouer dans les jeux du sport.
De manière faire ou pas?
De manière faire. Tiens, d'abord, juste avant de se quitter, 06 12 424 424, notre WhatsApp. Je voulais juste vous dire qu'on a plein de messages de Christophe, de Xavier, de Jean, de Simon. Nos auditeurs des grands jeux du sport qui ont été très émus par votre vestiaire il y a quelques instants et qui se sont beaucoup retrouvés tous dans des histoires de foot, dans les sélections départementales, régionales, des histoires de famille sur ce que le sport vous a tous apporté, vous a formé comme personne. C'est la fête nationale du sport aujourd'hui, et on va lui porter honneur en quelques instants en jouant avec les règles du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
C'est la dernière ligne droite, c'est quelle ligne droite avec Marion Bartoli, Pascal Duprat, Simon Dutin, Julien Beneteau, parce que tout de suite.
Il faut qu'on m'explique les règles du jeu, j'ai jamais joué.
Ah oui, mais tout de suite,
dès qu'on joue. Ton téléphone.
RMC, les jeux du sport.
Je vous explique le principe, Marion. C'est du 2 contre 2. Vous allez chacun défendre un auditeur. On va poser des questions sportives. C'est comme un trivial poursuite, tu sais, où tu tomberais toujours sur la case orange et tu dois donner une réponse sport. C'est de la culture sport. On a réparti les équipes ce matin avec notre producteur Maxime Abolin. Les équipes, c'est Marion Bartoli avec Simon Dutin. Vous faites équipe ensemble. Et Julien Beneteau et Pascal Duprat. On accueille nos auditeurs Jean-Charles et Ahmed. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Jean-Charles, c'est toi qui as appelé en premier, donc je te laisse choisir l'équipe avec la team Bartoli Dutin ou Beneteau Duprat.
Bartoli Dutin, s'il te plaît.
Ah, Bartoli Dutin, Jean-Charles. Bravo. Donc Pascal et allez, Julien, allez. Vous êtes avec Ahmed, qui est donc avec vous. Je vous rappelle, Jean-Charles et Ahmed, que vous avez un cadeau à gagner aujourd'hui. C'est un PC portable 16 pouces de la marque française Altic. Attention, c'est parti. Première question. C'est une question, s'il vous plaît, à une seule réponse. C'est-à-dire que vous donnez une réponse, si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Question de rapidité, évidemment. Qui est le champion olympique du 100 mètres?
Noah Lyles,
Simon et Marion. De toute façon, le point était pour vous. Ça fait 1-0, les amis. Question à une seule réponse également. Le mondial de volley masculin débute aujourd'hui aux Philippines. Pour la bande à Erwin Engapet, combien de fois la France a remporté le trophée?
0,
dit Bennett. Heureusement que Bennett l'a dit avant. C'est bon.
C'est pareil.
Un partout.
Ah oui.
Question auditeur, Jean-Charles et Ahmed.
Allez,
c'est pour vous. Je vous rappelle, vous donnez la réponse et ensuite votre prénom. Comme ça, on peut vous identifier plus facilement. Par exemple, vous dites, je ne sais pas moi, Noah Lyles, Jean-Charles. Ok pour vous. Allez, c'est parti. Ouais. De quel pays est parti le Tour d'Espagne, la Vuelta qui s'achève ce dimanche?
Portugal, Jean-Charles.
Non, c'est pas bon, Jean-Charles. Ahmed.
France,
amen. Et non, c'est pas bon, c'était l'Italie, les amis. Donc, aucun point marqué par vous, les auditeurs. Ça fait toujours un partout. Question à une seule réponse, les GG. Question à une seule réponse. Qui va coacher l'équipe monde à la Lever Cup? Qui va coacher l'équipe monde à la
Lever Cup? André Gassi.
Là, tu vois, l'énergie qu'a mis Marion te montre que ça y est, elle est rentrée dans la compète. Waouh! 2-1 pour l'équipe Bartoli Dutin. Question à une seule réponse. L'Afrique du Sud a battu les All Blacks hier en rugby. C'est la plus grosse défaite de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Combien de points d'écart?
43-10.
Simon Dutin. Ah non, mais oui, j'ai dit combien de points d'écart? Combien de points d'écart, Pascal?
Bravo, Simon, bravo!
Alors,
demande-nous le score.
J'aime quand t'es concentré, Simon.
3, question auditeur, Jean-Charles Ahmed, c'est pour vous.
C'est premier à combien de points? Attends, c'est premier à combien de points?
C'est le temps.
3 pour l'instant pour vous, Marion. Jean-Charles et Ahmed, quel est le record du monde du saut à la perche? Le plus proche gagne.
6m29, Jean-Charles.
Ah, 6m29, Jean-Charles, bien joué. 4-20.
Bravo, Jean-Charles. On creuse l'écart.
La semaine dernière, j'ai gagné. Attention, sur le là, il va y avoir. Pascal dit, je n'ai jamais gagné 3 points.
Mais pose les questions lentement, ça prend aussi autant. Alors.
Question à élimination. Marion, écoute bien, j'explique le principe. Vous allez répondre chacun à tour de rôle, une erreur, et vous êtes éliminé. Hein. Pas votre équipe, mais vous. Je vais vous demander à tour de rôle de vous donner une réponse. Il y a plusieurs réponses possibles. Je vais vous demander, s'il vous plaît, le nom des 36 équipes engagées en Ligue des Champions cette saison. Une erreur et vous êtes dehors. On va commencer par Marion. Les équipes en Ligue des Champions cette année. Marseille, évidemment. Fallait que tu commences par là. Bennett.
PSG,
c'est bon. Pascal.
Atalante.
Atalante.
C'est pas l'Atalanta.
Excuse-moi. Et pardon. Simon.
City,
c'est bon, évidemment. Marion.
Liverpool,
c'est bon, évidemment. Bennett.
Bayern,
ça marche, ça n'a pas encore été dit. Attention, si vous dites une équipe qui a déjà été dite, vous êtes dehors. Pascal.
On a dit Real?
Non, on n'a pas dit Real. Attention. Simon.
Naples.
Le Napoli, c'est bon. Marion.
FC Barcelone.
Le Barça, bien sûr, est là. Bennett.
L'Atlético
de Madrid?
Oui.
Bien sûr qu'ils sont Atlético de Madrid. Pascal.
On a dit Inter?
Non, on n'a pas dit l'Inter. Tu vois,
tu réponds comme ça. Chaque fois, tu vas dire, on l'a dit.
Simon, je vous préviens, on va réduire la durée de réponse dans quelques instants. Simon.
Borussia Dortmund,
c'est bon. Marion, allez, 5 secondes pour répondre à partir de maintenant.
Monaco,
c'est bon. Bennett. 4.
Leverkusen.
3. Leverkusen, c'est bon. Pascal.
Shakhtar Donetsk.
C'est pas bon, Shakhtar Donetsk?
Non.
Éliminé Pascal. Simon.
L'Union Saint-Gilloise,
bien sûr, c'est de la Belgique. Marion.
Chelsea,
bien sûr, ils y sont. Bennett.
Bruges.
Club de Bruges. Simon.
Newcastle,
c'est bon, là vous êtes hyper concentré. Marion.
L'Ajax
Amsterdam, ils y sont cette année? Bien sûr qu'ils y sont. C'est parti, 3 secondes pour répondre maintenant. 3. Bennett.
Le Sporting Portugal.
1. Le Sporting Portugal?
Sporting de Lisbonne.
C'est bon?
Oui.
Non, mais il a dit Sporting
c'est
Portugal.
Bon, c'est bon. Allez,
oh,
Simon,
non, mais franchement.
Benfica, c'est bon.
Ben oui.
Marion.
Ouais. Bilbao.
Ah. Bilbao, c'est bon. Benetz.
Le Celtic Glasgow.
Celtic Glasgow.
Celtic. Oui,
ah non,
Celtic Glasgow,
non, 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 non. C'est pas bon, Celtic Glasgow.
Non, mais...
C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, ils n'y sont pas, Celtic Glasgow. Ils n'y sont pas. Le point, les deux points sont pour ouais. l'équipe du Tain.
Voilà. Ouais, Simon.
Ça fait 6-1. Bon, allez, on va continuer quand même, les amis. C'est pas terminé. Attention.
Ça fait quand même pas mal de break dans un set.
Question auditeur, Jean-Charles Ahmed, c'est à vous. Quelle est l'affiche de Ligue 1 ce dimanche soir?
Rennes-Lyon-Jean-Charles.
Rennes-Lyon, Jean-Charles. Ah, là, c'est une démonstration. C'est une démonstration. Ça en est presque gênant. Ça fait 7-1. Tiens, on va écouter quelque chose. On va écouter High Live.
Allez, les dernières secondes de ce dernier tour du 1500 mètres. Kevin Mayer s'accroche pour garder sa médaille d'argent. Ce serait son deuxième titre de vice-champion olympique. Damian Warner sera un magnifique champion olympique. Mais le record du monde restera français, restera pour Kevin Mayer.
Question à 3 points, les amis. Celui, qui, oui, est le plus proche, celui qui est le plus proche s'impose. Kevin Mayer, vice-champion olympique à 2 reprises, mais détenteur du record du monde du décathlon. Avec combien de points? Chacun a droit à une réponse. Celui qui est le plus proche gagne.
6300.
6300, c'est le juste prix, j'adore.
De quoi?
Pascal, le record du monde de Kevin Mayer.
Non, mais on regarde pas sur le téléphone, s'il vous plaît.
Marion?
9000 points.
9000 points, le dit Bennett.
10 000,
le dit Marion. Simon?
J'en sais rien, j'ai aucune idée.
10 200.
10 200. Non, c'est Bennett qui était le plus proche. C'est 9126, 9000
bah,
points.
J'étais pas si loin, mais ça... 10 000.
Ah ouais, mais t'étais pas si loin, mais t'étais un peu plus loin. Mais c'est l'équipe de Marion et de Simon qui s'impose.
Bravo. 7-2. Ouais, Simon. Bravo, ouais, on a été bon. Très fort à la volée, on a été solide à la volée, on a conclu les points.
Ah ouais, là, vous avez été déterminant. Jean-Charles, c'est toi qui donc remporte un PC portable 16 pouces de la marque française Altic. Félicitations.
Jouer à l'e-sport sur RMC et gagner un PC portable Altic 16 pouces garanti 3 ans. Altic, la marque française d'ordinateurs basée à Nantes. Rendez-vous sur altic.com.
Il n'y aura pas de troisième victoire d'affilée pour Pascal Duprat. Grosse entrée en liste de Mario Bartoli. Hein. Dans les jeux du sport. Et attention, on a revu la compétitrice là. Merci les grandes gueules du sport. Pascal, Simon, Marion,
merci.
Julien Benetto. Marion, on se retrouve ce soir évidemment dans Bartoli Time à 19h30. On aura de beaux invités en ce dimanche.